Père éternel, Dieu de gloire, toi qui règnes sur ton trône de majesté, nous qui sommes ici sur la terre, comme nous venons de le chanter, nous te prions de nous enseigner toi-même par ta parole et de nous laisser sentir et que fasse œuvre le feu de ton esprit, celui qui viendra séparer tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de ce monde, tout ce qui est de l'adversaire, pour que nous puissions être cette armée qui se lève. Fais œuvre de séparation encore. Merci pour tout ce que tu as pu donner jusque-là. Merci ce que tu veux encore donner en ce jour. Merci notre Père. Tu es notre Père et donc tu es jaloux. Tu es jaloux de ces enfants pour lesquels tu as payé le prix de ton unique et de ton Fils. Et tu ne peux pas supporter de nous voir dans le péché, de nous voir dans la désobéissance. Nous qui sommes cette race élue, nous qui sommes appelés être cette race royale qui obéit à son roi, ces sacrificateurs qui obéissent à leur souverain sacrificateur pour le servir selon ses préceptes, selon ses voies, selon son esprit. Comment toi, le Dieu qui nous a rachetés par le sang précieux de Jésus, peut supporter de nous voir être encore conditionnés par ses puissances, de nous voir obéir à ce qui n'est pas toi, obéir à la chair, obéir à ce monde, obéir à l'adversaire, alors que nous devrions être cette église, cette épouse pure, sans tache et puissante de ton onction pour mettre en déroute l'ennemi, pour retourner le monde. C'est ce qui est dit des apôtres. Voilà, ces gens qui ont retourné le monde et nous laissons le monde nous retourner. Donne-nous ta force, donne-nous ton Saint-Esprit pour être de ceux qui retourneront le monde, pour être de ceux qui retourneront cette chair, cette manière de penser de la terre, ce bon sens, toutes ces choses qui nous empêchent d'être ces saints, d'être comme Jésus, qui était saint comme tu es saint, qu'il le reste, qu'il le demeure, dans lequel il n'y a pas une ombre de variation, il n'y a pas de changement. Aide-nous à trouver cette résolution, aide-nous à trouver cette stabilité. Ce monde va passer, mais tu ne passeras jamais. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu seras le même demain. Fais de nous tes enfants éternels. Viens par ton esprit nous aider. Donne-nous d'obéir véritablement, Père. Que personne d'entre nous puisse se faire illusion. Fais de nous ces gens résolus, Père Céleste. Fais-nous grâce encore dans cette dernière ligne droite de séminaire. Fais-nous grâce et aide-nous à t'entendre et sépare ce qui doit être séparé en nous. Et fais de nous des vrais, fais de nous tes enfants, les enfants d'un royaume auquel nous nous soumettrons de cœur. De cœur nous nous soumettrons parce que c'est ton règne. Et nous pourrons haïr ce qui est le règne du diable dont il est le prince. Et nous serons réellement crucifiés avec Christ. Ce monde sera crucifié, chair, monde et diable, ainsi nous prendrons, Seigneur, part à tes desseins, à cette vocation céleste en Jésus-Christ, à laquelle tu appelles chacun de nous pour ramener ce règne sur la terre, pour faire rentrer, Père Céleste, ce monde en servitude, cette création qui nous attend. Elle attend ses fils de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Oh, nous sommes dans cet ultime combat des choses dernières. Alors lève ton armée, lève cette génération, c'est Caleb et c'est Josué qui t'obéiront, quoi qu'il en soit, peu importe ce qui est en face, c'est à ta voix que nous obéirons, c'est ta voix que nous écouterons, et non pas une autre voix, mais la tienne seule, parce que tu es un père qui veut se saisir plus que jamais de ses enfants, pour toi l'Éternel des armées, en faire cette armée, pour faire toutes tes volontés. Oh, que tu puisses faire toutes tes volontés en nous, nous t'en prions, Père Céleste. Aide-nous, fortifie-nous encore en ces instants pour être de ceux qui pourront accomplir ta volonté, être ses serviteurs fidèles. Oh, fais ces choses, Père Céleste. Nous te le demandons dans le nom de celui qui t'a parfaitement obéi, dans le nom de celui qui est notre modèle, dans le nom de celui que nous voulons contempler, Jésus, ton Fils, ton unique, mais celui qui est appelé être notre aîné, que nous puissions être cette multitude de frères et sœurs qui rentrent dans les pas du Maître, qui devienne notre maître, notre seigneur, notre roi, en esprit, en vérité et en action. Nous te le demandons, Père, au bon nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, alors que nous prions, je faisais mémoire de ces témoignages que nous avons eus, pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre et qui pourront écouter la suite de ce séminaire, nous avons laissé une journée pour digérer tout ce qui a été dit et nous avons pu partager ensemble à l'issue de ce séminaire avant-hier. Et plusieurs ont témoigné, nous avons pu nous édifier par les témoignages des uns et des autres. Et s'il y aurait beaucoup à dire, et que je ne peux pas tout dire parce qu'il nous faut arriver à terminer ce séminaire, eh bien, il y a un témoignage que j'aimerais relever. Et ce témoignage, c'est celui d'une personne qui faisait écho à cette liste de 2 Timothée 3 et qui parlait de cette insensibilité. Ils seront insensibles et déloyaux, notamment. Et nous avons partagé, et je crois que ça nous a aidé à mieux comprendre la teneur des paroles qui avaient pu être données dans les sessions que nous avons vécues ensemble, de la puissance de ce monde, de la force antichrist dans laquelle nous vivons, de cette force de l'iniquité qui fait que nous devenons, sans nous en rendre compte à quelque part, des gens insensibles, déloyaux, des lâches, si j'oserais dire. Ce sont des paroles que nous retrouvons dans l'Apocalypse d'être des lâches. À savoir que nous disons que nous voulons quelque chose. Et nous allons, inconsciemment bien sûr, aller jusqu'à mettre la faute sur Dieu. Je voudrais vivre cette obéissance. Je voudrais être consacré à l'Éternel. Et nous paraissons tout à fait sincères. Quiconque n'a pas un réel discernement serait touché par notre témoignage. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas loyaux. Nous sommes encore lâches. Nous sommes encore faux. Et cette personne qui témoignait de cela, eh bien, on a pu en parler ouvertement pour partager, pour édifier les uns et les autres. C'est cette même personne qui partageait ses combats à se lever le matin. Et vous voyez, on arrive à voir aujourd'hui des personnes qui vont dire avec une grande conviction « Mais moi, je veux servir Dieu, je veux suivre Jésus !» Mais par contre, quand le réveil sonne, eh bien, ces personnes, elles tournent et elles se retournent. Comme dit le livre des Proverbes, c'est comme les gonds d'une porte. Vous voyez, ils tournent et ils retournent et ils retournent. Et c'est le monde dans lequel on vit. On a un autre frère qui a pu dire, mais maintenant, un frère qui est un ancien maçon qui est parmi nous ici, qui disait, mais moi je suis maçon, et je réalise à l'écoute de ce séminaire, et j'ai honte, mais dans le bon sens, il n'y avait aucune culpabilité dans le cœur de cet homme, si ce n'est un feu, de dire, je sais ce que c'est poser des fondations. Mes fondations n'étaient pas claires. Et des fondations, il faut qu'elles soient précises, il faut qu'elles soient claires. Et ce frère disait, mais il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se fasse violence. Il y avait un feu dans son cœur. Il en a fait rire certains en disant que le matin, il disait, allez, debout, lève-toi, vieille limace. Et ça en faisait rire certains. Et en même temps, il y avait un véritable sérieux parmi nous, parce que c'est la vérité que nous sommes des limaces. Et nous disons que nous voulons des choses, nous avons plein de bonnes intentions, mais qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre mise réelle en pratique? Alors je disais à cette personne qui disait « je le veux » de lui dire « t'es-tu levé avec constance, de manière résolue, pendant X temps et as-tu vu le fruit que cela a apporté ?» Le lendemain, j'ai aussi croisé une sœur qui avait pris un temps à part suite à ce séminaire pour chercher la face de Dieu et elle me disait « il y a 2 mois de cela, j'étais décidé, j'étais clair et ce séminaire est venu me montrer, me convaincre de péché, mais pour la vie, pour la liberté bien sûr, mais est venu me convaincre de péché que petit à petit, le temps avançant, je m'étais relâché. Et pourtant je sais et je vois, même depuis ce séminaire d'hier, que quand on obéit sans restriction, non pas comme des lâches, mais comme des vrais, non pas comme des insensibles à Dieu, mais comme des gens qui sont sensibles à la parole de Dieu pour la mettre en pratique. » Elle me disait, je sais, je vois tout de suite le fruit que cela peut porter. Même si, comme j'ai pu en parler, ne nous attendons pas tout de suite, comme dans ces fast-foods, à recevoir tout de suite les fruits, la récolte de notre obéissance. Mais en même temps, je sais ce que me disait cette sœur, que même si il y a besoin de persévérance, quand on est vraiment déterminé, résolu, Dieu vient vite. J'ai même envie de dire, dès qu'on fait un pas d'obéissance, on sent qu'on est sur un sol stable, on est sur un sol de vérité, et que sur ce sol, j'ai envie de dire, chaque fois qu'on pose notre pied, il y a des sources qui se débouchent. Et on le sait, ça. Et on parlait de cette insensibilité terrible dans laquelle on est aujourd'hui. Je disais avec larmes que lorsqu'on prêche des choses comme ça, on voit nombre de personnes dans l'assistance qui disent « Amen », qui sont touchées. On voit, si vous voulez, l'esprit qui témoigne à leur esprit que c'est la vérité. Ils disent « Amen ». Je crois que si j'ai ces pleurs en moi, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le cœur de Dieu ? Il y a des « Amen », mais quelle est la mise en pratique ? Qu'est-ce qui se fait réellement ? Et pourtant, c'est là que tout se joue. Et j'avais ce désir de rappeler ces choses pour nous encourager à mettre en pratique, à faire comme nous l'avons, comme nous en avions parlé avec Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Il est le Seigneur. Et ne faites pas ce que je vous dis. Et c'est la génération dans laquelle nous sommes. Ce même frère disait qu'il avait un petit frère qui avait tout entendu sur les choses de Dieu et que son petit frère disait « Ce qui me fait peur, c'est que j'ai même plus peur, à savoir plus peur de savoir que je suis condamné. » Et je lui disais « Écoute, je crois que la vérité, je comprends tout à fait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de ton petit frère, mais nous sommes dans ces temps, et nous en avons parlé, où Dieu se retire. Mais la vérité, c'est que ce petit frère, il n'a pas peur. Il n'y a plus de crainte de Dieu. On n'a plus la crainte de Dieu sous nos yeux et dans notre cœur. On dit, ah, ce qui me fait peur, c'est que j'ai même plus peur d'aller en enfer. Non, tu n'as plus peur du tout. Tu n'as aucune considération pour Dieu. Tu te fiches de lui, certainement, peut-être sans t'en rendre compte. Mais c'est les temps dans lesquels on vit. Et on arrive à proclamer, c'est dur, c'est vrai, mais à dire, je le veux, et pourtant, si Dieu nous faisait passer des séquences, même de cette dernière semaine, ou de ces derniers mois, ou de ces dernières années, en un instant, lui qui est pur, lui qui est parfait, lui qui est droit, lui qui est parfaitement juste, il nous ferait passer des séquences, il dirait, ah oui, tu le veux ? Ben regarde, regarde, tout ce qui témoigne contre toi, et qui fait de ta bouche une langue mensongère, alors que tu parles pourtant avec entrain, qui fait de ton cœur un cœur mensonger. Dieu regarde aux actes. Hein, il y a déjà plusieurs personnes au long du cheminement qui pouvaient parler de leurs intentions de cœur, et te dire, oui, je vois ton cœur, je t'aime, je veux t'encourager de tout mon cœur aussi. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu mets en pratique ? C'est ça qui, c'est la mise en pratique qui montre que nos intentions, nos désirs ne sont pas du vent, mais qu'elles ont une consistance réelle. Jésus, il n'a pas dit, voici je viens pour tous vous sauver, je vous aime. Il a été percé, bien-aimé. Les clous, ils sont passés dans ses poignets, ils sont passés dans ses pieds. Il a reçu des coups de fouet et il ne s'est pas arrêté pour autant. Même quand on le plaignait, Il a pu dire, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Mais il était déterminé, il est allé au bout. Il a prouvé son amour parce qu'il a été crucifié et qu'il a remis l'esprit, il a accompli la parole jusqu'au bout, comme nous en avons parlé. Alors puissions-nous être de ces hommes et de ces femmes dans lesquels Dieu ne trouvera point de fraude. Voilà ce que j'ai dans le cœur, qui ne trouve pas de fraude en nous, mais qui voit cette vérité au fond de l'être. Le psaume 32, verset 2 nous dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Il y a un « et ». Et notre génération, et ce n'est pas qu'elle fait mal en cela, est heureuse parce que l'Éternel ne lui impute pas son iniquité. Mais comme nous l'avons lu, cet homme de Dieu Tozer qui disait « Pour contrecarrer ce faux salut par les œuvres, nous avons oublié que dans le salut, l'obéissance est une pièce maîtresse. La sanctification est une pièce maîtresse. La pratique des œuvres qui prouvent que nous sommes bien sauvés par la foi est quelque chose qui devrait être clair. Mais on a tellement contrebalancé que nous sommes heureux parce que l'Éternel ne nous impute pas notre iniquité et nous faisons bien. Mais nous oublions « et » dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et puissions-nous être ces hommes et ces femmes qui, face à cette génération dans laquelle nous vivons, qui, face au fait que Dieu se retire de plus en plus, pourront dire « non, non, je vivrai, non, je pratiquerai, non, je marcherai. Et parce que je suis délivré de mes iniquités, parce que je peux contempler ce salut en Jésus-Christ par la foi, je crois en lui et je suis déclaré juste. Mais alors, je vais vivre de tout mon être pour celui qui est mort et ressuscité pour moi et je le suivrai partout où il ira. Avant, on me mettait une ceinture, je me mettais moi-même ma ceinture et j'allais où je voulais, mais comme il l'a dit à Pierre, je vais me laisser ceindre. Et j'irai peut-être où je ne voudrais pas, mais j'irai avec celui que j'aime. J'irai avec celui qui m'a sauvé. J'irai avec celui que je veux suivre. Sinon, comme mon épouse, le jour où nous nous sommes rencontrés la première fois, nous étions dans un rassemblement de jeunes, et elle chantait, « Seigneur, je veux te suivre, tu as tout donné pour moi, voici, je veux tout donner pour toi. » Et nous avons partagé, elle a dormi une nuit, et le lendemain, elle s'est réveillée frappée, convaincue de péché, non pas parce que j'avais insisté dans les paroles que je lui avais données, mais parce que le Saint-Esprit lui avait parlé en lui disant, « Tu es fausse, comment tu oses chanter ces chants ? C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Il y a de la fraude dans ton cœur ! Il y a de la fraude dans ton cœur ! Ce n'est pas la vérité au fond de l'être, et pourtant, c'est ce que Dieu voit. » Alors, puissions-nous être ces hommes et ces femmes qui vont pouvoir être délivrés de l'iniquité par leur obéissance à la foi, mais qui par leur obéissance à la foi pourront permettre à Dieu de façonner la droiture, de façonner ce qui est loyal, la vraie sensibilité à la sainteté de Dieu, au royaume de Dieu. Ensuite, avant de pleinement rentrer dans notre sujet aujourd'hui, qui sera d'aller au bout, d'obéir jusqu'au bout. J'aimerais vous dire encore quelques mots qui vont avec ce que nous sommes en train de dire. J'ai partagé que l'onction et l'autorité viennent de l'obéissance, parce que l'obéissance nous brise, l'obéissance forme le Fils. Et qui a de l'onction, qui a de l'autorité, ne devrait l'avoir que dans le Fils, ne devrait l'avoir qu'en Jésus. Et je voulais tout simplement vous lire cette belle parole d'Hébreux 1, verset 9. « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'as oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. » Qu'est-ce qu'il est beau ce verset. Il parle de Jésus, le oint, le seul qui avait la plénitude de l'onction, la plénitude de l'autorité qui lui était sur la terre et dans le ciel. Il aura le sceptre de la royauté et du règne de Dieu. Il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Il a haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu ton Dieu, t'as oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Puissions-nous permettre à Dieu de nous oindre de cette huile, de cette onction au-dessus de nos collègues, non pas parce que nous serons meilleurs que nos collègues, mais parce que nous serons plus obéissants que nos collègues, nous serons plus morts que nos collègues, nous serons plus droits que nos collègues, nous serons ces enfants obéissants, Jésus étant l'exemple parfait de l'obéissance, il est l'exemple parfait de l'onction, l'exemple parfait de l'autorité et du cheminement que nous sommes tous appelés à prendre à sa suite. Donc maintenant, nous allons continuer avec les différentes caractéristiques de l'obéissance et on va donc commencer aujourd'hui avec une obéissance résolue qui sait aller au bout. Psaume 76, verset 12. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. J'aimerais vous dire, bien-aimés, que aller au bout de manière résolue, c'est dans la nature de Dieu. Et heureusement que c'est dans la nature de Dieu. Heureusement qu'il est dans la nature de Dieu de ne pas se dérober, mais d'être résolu et d'aller jusqu'au bout de ses desseins. On vient de dire que Jésus est allé jusqu'au bout. Eh bien, Dieu ira jusqu'au bout, jusqu'à l'établissement de son règne. C'est dans la nature de Dieu d'aller jusqu'au bout et de ne pas être un Dieu qui se dérobe, un Dieu qui change, mais qui va jusqu'au bout de la course. Et s'il nous donne sa nature en Jésus-Christ, si nous sommes semblables au Fils, alors nous serons aussi des frères, des sœurs qui iront jusqu'au bout. Un homme écrivait un jour « Que Dieu règne, cela semble encore bien loin de nous. Mais nous avons un Dieu qui va jusqu'à l'accomplissement de ses promesses. Lorsqu'il commence quelque chose, il ne s'arrête pas à mi-chemin, mais il l'achève. » C'est ce que nous confirme la création. Dieu ne s'est pas reposé avant que sa création soit achevée. Lorsque Jésus est mort à la croix, il a dit « Tout est accompli. Notre Dieu va jusqu'à l'achèvement. » C'est pourquoi il y aura aussi un temps de pleine bénédiction sur la terre, un temps où Dieu sera roi sur cette terre, où tous lui obéiront. Dieu arrivera à son but avec nous sur cette terre. Dieu, il arrivera à son but sur cette terre. Et parce que Dieu va arriver à son but sur cette terre, il faut que nous puissions être de la même nature que lui. Non pas de cette nature déchue que nous avons héritée d'Adam, influencée par le prince de ce monde, mais que nous puissions avoir cette nature qui va jusqu'au bout des choses. Jusqu'où alors sommes-nous prêts à obéir ? En Genèse 22, verset 5, Abraham a dit une parole si puissante lorsqu'on la médite, qui traduisait sa volonté d'obéir sans limite. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Et quand vous méditez, qui était ce jeune homme, c'était son unique, c'était son Isaac. Et c'est encore une parole, comme j'ai pu en parler durant ce séminaire, qui peut nous donner grain à moudre, communion avec le Père, de méditer ça à genoux devant Dieu. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. » Oh, si ça, ça pouvait être dans notre cœur. « J'irai jusque-là pour adorer. » Et comme Dieu s'est reposé seulement une fois que sa création était finie, je me reposerai seulement lorsqu'il reviendra pour recréer ce monde, pourrait-on dire, pour réparer cette brisure du monde et établir son règne. Joseph, bien-aimé, s'il avait pendant un temps accepté la jouissance du péché avec la femme de Potiphar, il aurait pu accepter la jouissance du péché, ou il aurait pu même, pourrait-on dire, se soumettre pour éviter des problèmes. Quand serait-il advenu du peuple d'Israël et des desseins de Dieu? Il ne serait jamais allé en prison. S'il n'était pas allé en prison, il n'aurait pas répondu à ses énigmes, il ne serait pas arrivé devant Pharaon pour être ce deuxième homme de tout cet empire. Et son père et ses frères n'auraient pas pu revenir vers lui pour vivre cette réconciliation. Vous voyez, notre obéissance, elle est intrinsèquement liée au fait que Dieu accomplit ses desseins, au fait que l'on rentre dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et parfois, on n'en se rend pas assez compte. Ô combien mon obéissance implique celle des autres et celle des desseins de Dieu. Parce que quand quelqu'un obéit, il y a une influence sur beaucoup d'autres. Ça peut être une influence sur ceux de l'Église. Une influence sur le corps de Christ. Quand un membre du corps de Christ obéit, il aide à ce que ce corps soit coordonné. Il aide à ce que ce corps soit uni. Il aide à ce que ce corps soit celui que Dieu veut qu'il soit. Mais lorsqu'un membre n'obéit pas, il empêche le corps d'être celui que Dieu veut qu'il soit. Et un corps à qui il manque un bras, une jambe ou n'importe quel membre, y compris les plus petits, ne peut pas être pleinement dans l'agir de Dieu comme Dieu le voudrait. Vous savez, des fois, on ne se rend pas compte. Mais si on pourrait nous enlever ne serait-ce qu'un pouce, ça n'est rien. Mais si on nous enlevait seulement un pouce, ça change notre vie. Ça change nos habitudes. Alors qu'en est-il d'une main? Qu'en est-il d'un bras? C'est pareil pour le corps de Christ. On est le corps de Christ. Si ton pouce n'y répond pas, tu ne vas pas pouvoir faire ce que tu voudrais faire. Alors tu vas avoir besoin de quelqu'un d'autre pour le faire. Et si ce quelqu'un d'autre, Dieu ne lui avait pas demandé cela, mais qu'il vient t'aider, il ne pourra pas être pleinement dans ce que Dieu lui avait demandé. Il suffit d'une infime partie du corps du Christ qui n'obéit pas, tout le corps se disloque. Pourquoi l'obéissance est si importante? Quand on obéit, on va influencer en bien ou en mal le corps de Christ et rentrer ou pas pleinement, comme Dieu le voudrait, dans ses œuvres. Mais ça va influencer d'autres choses aussi. Ça va influencer les païens. Ce que l'on va faire, ce que l'on va décider, va faire réfléchir beaucoup d'autres personnes. Et cette réflexion qui va pouvoir leur être donnée, et peut-être, et on en parlera dans une deuxième partie, peut-être même les souffrances qu'ils vont pouvoir avoir, peut les ramener à Dieu. Et en voulant parfois protéger, en voulant raisonner selon le monde, on ne laisse pas Dieu faire son travail. On apporte du négatif au corps de Christ, et souhaitant apporter du positif au monde, on lui apporte du négatif aussi. Parce qu'il pourrait, au travers de notre obéissance, être interpellé pour être ramené à Dieu. Lorsqu'on obéit, notre obéissance, elle affecte une multitude de choses. Parce que on pourrait aller en continuant. Si j'obéis et que le corps, entre guillemets, grâce à mon obéissance, c'est-à-dire grâce au fait que je laisse Christ vivre en moi et que ce n'est plus moi qui vis, alors Christ va pouvoir accomplir des choses. Mais si ces choses, il ne les accomplissait pas par ma désobéissance, eh bien, vous voyez, il y a tout un enchaînement. Il y a tout un enchaînement. J'obéis pas, donc le corps ne va pas pouvoir accomplir cela. Mais s'il avait accompli cela, une telle personne serait touchée. Et puis, ça aurait pu permettre ceci et cela. Et on ne se rend pas compte, j'ai envie de dire, la difficulté que Dieu a avec nous pour accomplir ses œuvres. Et pourtant, il ira au bout. Et puissions-nous percevoir que ce n'est pas que moi qui dois obéir. J'obéis parce que j'appartiens à une tête qui s'appelle Jésus et donc à un corps. Et ça, c'est fondamental. Et si je fais partie de ce corps, tout ce que je vais être et faire, ce corps, il est appelé à être la lumière du monde, à être le sel de la terre, à être le témoin, en particulier dans ces choses dernières, pour apporter Dieu à cette ténèbre. Et donc, parfois, nous pouvons nous dire, oui, il faut que j'aille au bout. De nouveau, on peut retrouver même ce « je chrétien », vous voyez. Je suis appelé à le vivre. Je me rends compte que ce n'est pas faux, mais n'oublions pas que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et temple du Saint-Esprit que nous sommes, alors nous devenons un ustensile du temple. Et il y avait besoin de tout ce qu'il y avait dans le temple pour l'adoration. Et pour que ce temple puisse être le signe de Dieu, lui qui était établi à Jérusalem, vous avez qu'à prendre n'importe quelle carte du monde, vous verrez, vous pouvez faire l'essai, vous faites comme ça, et vous vous dites, je mets mon doigt au milieu, et vous tomberez sur Israël. Du centre du monde, Dieu voulait rayonner. Donc, notre obéissance, elle est intimement liée au dessein de Dieu. Qui dit dessein de Dieu, dit corps de Christ. Et c'est là quelque chose de fondamental. Alors nous revenons à Joseph. Imaginez-vous Joseph. Il aurait dit, voilà, je ne veux pas de problème, je fais ceci. Qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé? Et des fois, on regarde la Bible en regardant en arrière. Oui, bon, mais ça, c'était Joseph. Non, ne t'ai-je pas choisi pour ce temps? On avait lu ce texte. Je t'ai choisi pour ce temps-là. C'est ce que Mardoché disait à Esther. Et puissions-nous nous rendre compte que si nous sommes membres du corps de Christ, c'est de Jésus, c'est de son honneur qu'il en va, bien-aimé.
Daniel, Daniel 1, verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et vous voyez, c'est ainsi que Daniel aujourd'hui, il est un exemple pour nous. Je vous ai dit dernièrement, prenez une journée et lisez un évangile en regardant uniquement la vie de Jésus. Non pas son enseignement, bien sûr qu'il faut, c'est ce qu'on fait toujours, de recevoir l'enseignement de Jésus, mais de regarder sa vie d'obéissance, et nous étions en train de parler aussi, sa vie qui était sans cesse en but à la contradiction, mais qu'il a toujours obéi, il a toujours fait la volonté du Père. Eh bien, je vous encourage à faire pareil avec le livre de Daniel. Si j'ose le dire comme ça, mettez les prophéties un petit peu d'un côté et regardez uniquement la vie de Daniel. Quel exemple, quel encouragement, quel homme de Dieu. Lui qui vivait au cœur de Babylone. Quelle image prophétique pour notre temps que Daniel. Mais si Daniel, il n'avait pas été résolu, si Daniel, il n'était pas allé jusqu'au bout, cet exemple, on ne pourrait pas l'avoir. En tout cas, moi, dans ma propre vie, Daniel, il est une grande grâce de Dieu. Je bénis cet esprit de Christ, comme on l'a dit lors de la dernière ou l'avant-dernière session. Tous ces hommes et toutes ces femmes de Dieu qui ont marché dans l'obéissance, elles étaient mues par cette onction, elles étaient mues par l'Esprit. Bien sûr, le Saint-Esprit à la Pentecôte a été répandu d'une manière tout à fait particulière. Mais le Saint-Esprit était à l'œuvre depuis le commencement. Il accompagnait le peuple d'Israël dans la nuée, dans le feu, mais aussi au travers d'hommes et de femmes de Dieu qui ont servi le Dieu d'Israël. Et donc, Daniel, quelle grâce qu'il ait pu obéir pour devenir cet exemple. Et si je peux dire Daniel, eh bien, c'est une figure biblique fondamentale pour ma vie. Il a aidé à bâtir ma vie sur le roc. Combien de personnes en plus, combien de milliers, de millions peut-être, pourraient dire la même chose? Et pourtant, Daniel, il a eu des combats comme nous. Si Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, combien Daniel, il l'a été aussi. Mais parce qu'il est allé au bout, lui, moi j'en suis sûr qu'il va en avoir des couronnes. En tout cas, moi, ce qu'il a pu produire dans ma vie, je veux de tout mon cœur que ce soit une couronne qu'il ait sur la tête, qu'il en soit récompensé de cela, Daniel. Mais il a eu des combats, heureusement qu'il a obéi. L'exemple qu'il peut être, mais aussi, bien sûr, si je dis de les mettre de côté, les prophéties qu'il nous donne. Et les prophéties qu'il nous donne, ô combien elles nous parlent pour notre temps, ô combien elles nous édifient aussi. Dieu a pu faire ce qu'il voulait en Daniel. Va-t-il pouvoir le faire en nous? Si nous le voulons, nous sommes appelés à être des enfants obéissants, mais qui sont prêts à obéir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mardochée, en Esther, chapitre 3, verset 4, nous pouvons lire « Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, c'est-à-dire de se prosterner devant Aman. Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas. » Comme on a pu le dire, les brebis, elles entendent sa voix, mais elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ils ne les écoutaient pas. Écouter Dieu veut dire ne pas nous écouter. Écouter Dieu veut dire ne pas écouter le monde et le diable. Eh bien, ils ne les écoutaient pas, bien qu'on lui parlait chaque jour. Ils en informèrent Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Même Esther, lorsqu'il a mis le sac et la cendre, elle a essayé de lui dire d'arrêter. C'était pas possible. Mardochée, il était résolu, bien-aimé. Et comme j'avais pu le prêcher à Pourim, un rabbin disait un jour que cet esprit d'Aman, qui était ce même esprit d'Amalek, qui était ce même esprit, on va le voir tout à l'heure, du roi Agag, ces Amalécites, et le diable aujourd'hui, il se gêne en rien, il dépasse toutes les limites. Et plus on est proche de Dieu, plus on se rend compte combien c'est vrai. Eh bien, Dieu attend pour notre génération, pour la délivrance de Jérusalem et d'Israël, qui sera la délivrance du monde entier, des hommes et des femmes qui sont prêts à dépasser leurs limites aussi, pour dépasser la puissance de ces puissances et pour que la puissance de Dieu puisse être répandue. Serons-nous ces Mardochées? En Mardochée, disait-il ce rabbin, il n'y avait rien pour retenir. Il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter. Comme il a dit à Esther, si tu ne veux pas obéir, je paraphrase, eh bien il va en choisir un autre, tu périras avec ta famille, mais Dieu nous délivrera d'une manière ou d'une autre.
C'est ce que nous enseigne Pourim dans ce livre d'Esther. Dieu, il va arriver à sa délivrance. C'est évident. Les rabbins disent que toutes les fêtes, eh bien, elles seront éclipsées par Pourim. Parce que Pourim, c'est la fête de la délivrance. Dieu nous délivrera. Dieu ira jusqu'au bout avec nous. Et Mardoché, il avait ça dans le cœur. Mais il avait pas, il n'était pas fort des promesses de Dieu simplement pour être heureux, mais pour persister jusqu'au bout, à ne point écouter l'ennemi, à ne point se prosterner devant lui, et à persister dans sa résolution. Et quand vous lisez le livre d'Esther, vous verrez qu'en Mardoché, il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter. Il était totalement acquis à Dieu. Et c'était certain qu'il serait allé jusqu'au bout. Même si Esther, elle n'avait pas joué son rôle. Je crois que par la foi de Mardoché, Dieu aurait pu agir dans cette génération. Et il aurait agi. Puisse Dieu faire de nous des Mardoché, bien-aimés. Dernier exemple, le plus beau, le plus merveilleux, Jésus. Luc 9, verset 51. « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Et quand Luc nous dit ça, l'évangile de Luc, il est centré sur la montée de Jésus à Jérusalem. Il est centré sur la montée de Jésus à Jérusalem parce que c'est à Jérusalem que Jésus devait être crucifié. Et donc, Jésus a pris la résolution d'aller à Jérusalem. À plusieurs endroits, on trouve dans les évangiles, ce n'était pas encore son heure. Mais quand il savait que c'était son heure, il a pris la résolution d'aller jusqu'au bout. Et comme nous le dira Philippiens 2, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est comme ça qu'il a pu accomplir sa mission jusqu'au bout. C'est pour ça que nous sommes là. Allons-nous être donc ceux qui marcheront dans ses voies. Maintenant, nous passons à un nouveau point. Pour voir, si j'ose le dire ainsi, ce que nous avons dans le ventre, dans les tripes, pour voir si nous sommes réellement de ces enfants obéissants, Dieu peut nous tester. Dieu peut nous éprouver. Et à l'inverse de l'exemple que l'on va prendre maintenant, même si c'est pour que nous tombions, mais c'est pour nous apprendre. Et en même temps, comme je le dis souvent, sois radical avec toi-même et miséricordieux avec les autres. Puissions-nous être de ces gens radicaux qui verront tous les tests, toutes les situations qui peuvent nous arriver dans la vie de tous les jours, autant de moyens pour nous affermir dans notre obéissance. Pour nous affermir dans notre obéissance. Et comme nous avons pu le voir, si quelqu'un croit être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. Même quand Dieu va nous utiliser, même quand nous allons vivre des choses puissantes avec Dieu, rappelons-nous toujours de qui nous dépendons et que nous sommes appelés à lui être soumis et à lui obéir. Parce que même les plus grands prophètes, de grands hommes de Dieu, ils ont pu tomber. Et nous allons en lire un exemple, non pas pour nous décourager, mais pour mettre un feu dans nos cœurs, pour faire de nous des gens alertes, pour faire de nous des gens droits que le diable, que le monde, que notre chair n'arrivera plus à faire tomber et qui accompliront jusqu'au bout la volonté de Dieu. Parce que nous pouvons obéir à Dieu, voir Dieu se glorifier, voir Dieu agir, et le voyant agir, peut-être nous relâcher. Ah, je suis dans tes voies. Attention, le diable est un lion rugissant qui rôde et qui cherche qui dévorer. Alors si vous voulez, on peut prendre ensemble le premier livre des rois, chapitre 13. 1 Roi 13, et nous lisons à partir du verset 1. Voici. Un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. C'est par la parole de l'Éternel, en obéissance à la parole de l'Éternel, que ce prophète arrive en Juda. Pour dire vraiment en deux mots, le royaume du nord de Juda est du sud de Juda et le royaume du nord étaient séparés. Suite à la mort de Salomon, Roboam était le roi du sud et Jéroboam était le roi du nord. Et ce prophète de Juda monte vers Bethel, qui était devenu un lieu d'adoration, à Bethel au sud du royaume du nord et à Dan au nord, Jéroboam avait établi des lieux d'adoration. En désobéissance à l'Éternel qui avait demandé qu'on adore à Jérusalem. Donc ce prophète de Juda, il monte à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. » Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi par des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. » Et vous vous rendez compte ce qu'il vient de dire, hein ?« Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le !» Et la main de Jéroboam, et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Bon, ça c'est pas simplement, si j'ose dire, qu'on est guéri parce qu'on a un mal de dos ou peut-être même d'un cancer, c'est vraiment un agir puissant de Dieu au travers d'un homme de Dieu qui va selon la parole, qui crie la parole, qui donne le signe selon la parole de l'Éternel, d'un homme foncièrement obéissant qui permet à Dieu de se glorifier. C'est extrêmement puissant ce qui vient de se passer au travers de cet homme. Mais voilà la suite de l'histoire. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Donc vous voyez, les signes, les prodiges qu'on peut voir dans la vie de ce prophète. Le roi, je prends verset 7, « Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison. » Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu, toujours obéissant, dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. » Voyez là la résolution, le zèle, la droiture, la détermination. « Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Vous voyez comme il est clair, comme il est net, comme il est précis. On saute au verset 15. Il rencontre un autre prophète. Et au verset 15, il nous est dit, « Alors il lui dit, cet autre prophète, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Vous reconnaissez là la tentation du diable avec Jésus dans le désert. » Mais il lui répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, de nouveau, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. » Et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Et vous lirez la suite. Cet homme de Dieu, il est mort, dévoré par un lion. Et qui est le lion? C'est ce diable, ce lion rugissant. Alors, quel enseignement qui devrait nous faire frémir, mais pour faire de nous des gens résolus jusqu'au bout. Parce que quand on voit son histoire, malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller dans tous les détails, vous lirez vous-même, d'accord? Je vous lis juste, si vous voulez éventuellement une parole au verset 21. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain, etc. Eh bien, il lui dit, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Vous voyez, c'est vraiment terrible. L'homme de Dieu s'en alla. Il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. Et je crois que c'est un profond enseignement pour nous. Cet homme de Dieu, il avait tout bien commencé. Il était oint par Dieu. Il était obéissant. Dieu agissait au travers de lui. Il avait accompli même sa mission, on pourrait dire. Et il s'en retournait conformément à ce que l'Éternel lui avait dit, mais par un autre chemin. Donc je crois que c'était réellement un homme de Dieu obéissant. Mais voilà que le diable, il sait où l'attraper. Il sait où l'attraper. Il sait où l'avoir et il s'est fait avoir. Et pourquoi? Et nous allons en parler dans quelques instants. Parce que cet homme, il n'a pas eu une obéissance sainte, à savoir une obéissance qui coupe jusqu'au bout. Puissent ces exemples nous aider. C'est ce que reprend Jésus dans Matthieu 7. Vous connaissez très bien ces paroles. Plusieurs me diront en ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons, fait beaucoup de miracles ?» Je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Qu'est-ce que c'est l'iniquité? C'est quelque chose de tordu. C'est quelque chose d'autre que la stricte obéissance qui va jusqu'au bout. Et ô combien ça doit devenir clair pour chacun de nous. Parce que nous vivons dans un monde puissant. Des faux prophètes, il y en a qui mentent, il y en a à l'appel. Et même des anges, c'est Paul qui disait, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, et même un ange venu du ciel, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Mais on n'a plus cet esprit de l'anathème en nous. On n'a plus cet esprit de sainteté en nous. Alors on est vulnérable, bien-aimé. Parce que le diable, lui, même s'il avance camouflé, je peux vous dire que c'est un lion. Et un lion rugissant. On en a parlé, il ne va pas venir de face. Il est subtil, il prend des chemins détournés. Il se cache derrière des prophètes qui mentent. Il se cache derrière des choses qui nous mentent. Mais n'empêche qu'il est tout aussi féroce. Tout aussi féroce, et même encore plus dans sa manière subtile et si maligne de faire. Nous sommes en danger dans le monde dans lequel on vit, en particulier dans ce monde humaniste dans lequel on vit, dans ce monde virtuel dans lequel on vit, ce monde qui nous empêche de lire la parole de Dieu telle qu'elle est, pour la vivre telle qu'elle est. On est dans un monde de compromission, une église de compromission, et on est en danger, bien aimé. On est vraiment en danger. C'est pourquoi cette obéissance, elle doit non seulement être claire, mais elle doit être claire jusqu'au bout du chemin. Peut-être, j'ai dit lors de la dernière session, je ne vais pas y revenir, il y avait ce point du fait d'être immédiat, du fait d'être totalement clair, qui était, selon moi, une des choses que je demanderais que l'on retienne. Parce que je sais que de là, tout se fait de manière réelle. La deuxième chose qui serait au fond de ma prière pour chacun de nous, m'incluant bien évidemment avec vous, c'est que nous puissions non seulement obéir immédiatement, clairement et saintement, et on en dira encore quelques mots tout à l'heure, de cette sainteté dans l'obéissance, mais qu'on puisse aussi, nous tous qui sommes ici, être de ceux qui obéiront jusqu'au bout, qui finiront la course. Et même quand on aura l'impression d'avoir fini, non, on persévère jusqu'au bout. Et lorsque l'on aura fini, ce sera qu'on sera réellement délivré, que Jésus sera venu dans sa sainte gloire, bien-aimé, dans sa sainte gloire. On va prendre, si vous le voulez bien, un deuxième exemple d'un homme qui a, je dirais, été testé par l'Éternel. Et c'est l'exemple, on ne peut pas ne pas parler de Saül lorsque l'on parle de l'obéissance. Dans 1 Samuel 13, nous lisons à partir du verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Parce que ce camp des Philistins était impressionnant. très impressionnant. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül, mais imaginez-vous avant qu'on continue, il y a une armée innombrable. La petite armée que vous avez, elle est en train de se disperser. Ils se cachent, ils ont la trouille, bref. Il y a un prophète qui vous a dit, de la part de Dieu, vous savez que Dieu parle à travers lui, Samuel, je crois que pour combien c'était le cas, tu attendras 7 jours, tu attendras que j'arrive avant d'offrir les holocaustes. Et Dieu donnera la victoire. Mais imaginez-vous de vous mettre à la place de Saül. Saül, il avait déjà remporté les grandes victoires. C'est dans un désir même d'adorer Dieu, d'implorer Dieu avant d'aller se battre et de rassembler le peuple. Il y avait, pourrait-on dire, bien de bonnes intentions et en même temps bien des peurs. Mettons-nous à la place de Saül. Comme je crois qu'on doit le dire, avant de critiquer tout azimut et rapidement les pharisiens, essayons de nous mettre à leur place. D'ailleurs, ça c'est un témoignage qu'un frère avait pu donner au travers des partages qu'on a eus suite à ces 2 premiers jours de séminaire, qui disait « Si Jésus était là, je lui obéirais, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est quand même différent. » Et moi, j'ai pu dire à ce frère que, en respectant bien sûr ce qu'il pouvait penser, que je ne croyais pas que c'était juste ce qu'il disait. Et honnêtement, j'en suis persuadé. Si Jésus était là, je ne suis pas sûr qu'on lui obéirait tout de suite. Il n'y a qu'à lire les évangiles pour le comprendre. Il n'y a qu'à lire ce que disait ce mauvais riche à Lazare et à Abraham. « Laissez-moi au moins aller !» Ou que quelqu'un y parlait là, à mes 4 frères. Qu'est-ce qui lui a été répondu? Ils ont Moïse et les prophètes. Ils auraient pu rajouter, il y a même Jésus là qui est en train de parler. Si ça, ça ne vous suffit pas, si vous ne les avez pas écoutés, vous ne les écouterez pas non plus. Et on est foncièrement dans ce temps. Cette parole, je crois, de Lazare et du mauvais riche, c'est une parole pour nous aujourd'hui. On voudrait, on se dit oui, mais on est la génération du oui, mais. On n'est pas des gens loyaux, bien-aimés. Et on a besoin d'être loyal si on veut arriver au bout. Même si Jésus venait aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on lui obéirait strictement comme cela. Alors de la même manière qu'on n'est pas appelé à critiquer trop vite les pharisiens, ne critiquons pas trop vite Saül non plus, parce que mettons-nous à sa place, le chef, le roi d'Israël, tout le monde s'en va, tout le monde a peur, tout le monde se cache, ça fait 7 jours qu'il attend, Samuel il n'est toujours pas arrivé, il se dit mais là on va se faire battre, il faut bien que j'implore l'Éternel. Bon, alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste, sacrifice de consécration. Il veut même se consacrer à Dieu. Alors écoutez, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? C'est exactement la même parole que Dieu, la même question que Dieu pose à Caïn. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait à Abel? Et là, cet homme de Dieu, il reprend ses paroles et lui dit, qu'as-tu fait? Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé. C'est pas vrai, il n'était pas encore arrivé. Et vous savez, quiconque a une expérience de vivre par la foi, vivre par la foi, on peut lire des livres sur George Muller et autres, on se dit, mais c'est extraordinaire, Hudson Taylor, mais c'est extraordinaire. Mais vivre par la foi, c'est difficile. Vivre par la foi, c'est beaucoup plus dur que ce que l'on croit. Et vivre par la foi, c'est pour aujourd'hui, encore, n'en déplaise à un monde, ou même à une église qui glorifie des saints du passé, et quand on vit par la foi aujourd'hui, alors ça paraît une folie. Non, ça vient de l'obéissance, ça vient du brisement, et c'est difficile. On ne peut pas vivre par la foi si on ne vit pas une vie d'obéissance. Et vous savez quoi? Comme ce passage-là nous enseigne, Dieu souvent y répond au dernier moment. Et quiconque vit vraiment par la foi depuis plusieurs années a une communion avec Dieu, une vie d'obéissance qui fait qu'on se renforce de plus en plus, certes, mais qu'on peut voir l'éprouvement, le test, pour voir si nous allons obéir jusqu'au bout et croire jusqu'au bout. Nous avons parlé de ce témoignage de Rizowell qui était dans cette file du train. Plus les gens avançaient devant lui, plus il doutait. Plus le temps avance pour certaines choses, plus on doute. Mais comme il avait dit, pour rien au monde, j'aurais voulu manquer ce test de la file d'attente. Eh bien alors, il nous arrive des choses quand on marche et qu'on vit par la foi. Et on dit pareil, pour rien au monde, j'aurais voulu manquer ça. Et même cette attente de dernière minute. Parce que c'est dans cette attente de dernière minute, comme j'en parlais à l'équipe missionnaire dernièrement, qu'on doit se rappeler de cela. Parce qu'une fois que Dieu a donné, bon, ben, gloire à Dieu, il a donné. Mais quand on attend, quand on est éprouvé, eh bien c'est là que Dieu nous attend. Et là, il y a un frémissement, je ne sais pas comment expliquer, il y a quelque chose entre nous et Dieu. Est-ce qu'on s'accroche? Est-ce qu'on demeure? Est-ce qu'on persévère? Est-ce qu'on est dans l'obéissance? C'est là l'importance d'être obéissant et pas simplement d'obéir, d'être rendu semblable à Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui est capital pour quiconque vit par la foi, d'apprendre à obéir jusqu'au dernier moment. Parce que parfois, on croit que le dernier moment est passé, mais ce n'est pas vrai. Et c'est ce qu'a cru Saül, mais ce n'était pas vrai. Alors, il lui répond, qu'as-tu fait ? Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre, je me suis dit, vous voyez ? C'est lui qui s'est dit. Comme je le disais lors des dernières sessions, est-ce que c'est Jésus qui dit ou est-ce que c'est moi qui dis, le monde ou le diable ? Je me suis dit, alors il s'est dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert un holocauste. Voilà le roi d'Israël, oint par Dieu, qui devient un prophète de Baal. Et à nouveau, ne lui jetons pas la pierre trop vite et faisons attention à toujours garder, et ça fait partie des témoignages qu'il y a eu aussi, cette obéissance filiale, cette obéissance qui n'est pas celle d'un robot, comme un frère nous le disait, mais une obéissance, non pas même à l'amour de Christ, mais à Christ, au moins à Jésus lui-même, à une personne. Qu'on reste tout le temps en communion avec cette personne. Sinon, en voulant obéir, suivant dans quelle situation on va se trouver, exactement comme Saül, on va se faire violence. C'est les violents qui s'emparent du royaume, mais c'est ceux qui entendent cette voix de Jésus, qu'il a voulu jeter un feu sur la terre, et qu'ils souffrent en quelque sorte que ce feu ne soit pas encore allumé. Les violents, ils sont violents du zèle qu'avait Jésus lorsqu'il a pris le fouet dans le temple. Les violents, ils sont violents de la violence du ciel qui n'a rien à voir avec la violence de cette terre. Mais attention, nous sommes appelés à nous faire violence, à déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements. Mais mus par l'Esprit de Dieu, mus par Dieu lui-même, par Jésus lui-même. Sinon, on peut se faire violence en voulant obéir, en voulant bien faire. Ce qu'a voulu faire Saül, mais on est tout à côté. On est tout à côté. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu as agi en insensé. Tu as perdu le sens de Jésus, le sens de la voix de Dieu, le sens de l'obéissance. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. Comme on a pu le dire, ces commandements, ils nous protègent. Ces commandements, ils sont là pour nous aider, ils sont l'amour de Dieu. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. C'est terrible. C'est terrible. Il a voulu bien faire, il s'est fait violence. Il a offert un holocauste pour implorer l'Éternel. Et là, il est déchu en un instant. Alors, voyez, on est une génération qui tremble plus du tout devant la parole de Dieu. C'est Paul qui disait, qui invitait à trembler devant la parole de Dieu. Mais on ne tremble plus devant la parole de Dieu. On ne tremble plus devant Dieu. Et c'est ce que nous partagions. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Alors comme il n'y a plus de crainte de Dieu, il n'y a plus de réelle mise en pratique, il y a plein d'intentions et finalement le fautif c'est Dieu, mais on ne tremble plus devant Dieu. Et on ne tremble plus devant ses paroles, parce que les deux paroles que nous venons de lire dans 1 Samuel 13 et dans 1 Roi 13, facile à retenir, 1 Roi 13, 1 Samuel 13, eh bien je crois qu'elles auraient de quoi nous faire trembler. Un tel homme de Dieu dévoré par un lion, et Saül, oint comme roi, déchu de la royauté. Vous savez, avant de parler qu'on peut perdre ou pas son salut et de regarder dans l'Apocalypse et autres, dans la Torah et les prophètes, on a déjà toute la base de l'instruction qui est là pour nous. Regardez cet homme, ce qu'il avait vécu. Regardez Saül, il avait, vous pouvez lire les chapitres précédents, les exploits de Saül, comme il était oint. Mais Saül, il y aurait de quoi prêcher sur Saül avant 1 Samuel 13. Et je peux vous dire que ça nous édifierait puissamment, comme un homme de Dieu, selon le cœur de Dieu, comme un vaillant homme oint et confiant en Dieu, obéissant à Dieu. Et les 7 jours étant écoulés, il se fait violence pour offrir un sacrifice, et là c'est fini pour lui. Je crois que cela doit nous donner la crainte de l'Éternel, bien-aimé. Et la crainte de l'Éternel, je pense que c'est une des choses qui manque le plus dans l'Église aujourd'hui. Et je pense que c'est une chose qui fait que l'on n'obéit plus réellement et saintement aujourd'hui à Dieu. Parce qu'on le craint plus réellement. Parce qu'on tremble plus réellement devant lui. Et je pense qu'il y a un problème à cela et qui vient du fait qu'on s'est écarté de la parole de Dieu. Ou sinon, on lit que ce qu'on appelle le Nouveau Testament, alors que ni ce qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau est un testament, mais c'est une parole vivante et efficace. C'est la parole de Dieu pour nous. L'Apocalypse, il nous dit de rien retrancher et de rien ajouter à tout ce qui est écrit. Je suis persuadé que quand Jésus a pu dire ça à Jean, il parlait de la parole dans son entier. Genèse 1, 1 jusqu'à la fin et le dernier verset de l'Apocalypse 22. Et on a besoin de revenir à la parole pour trembler devant cette parole. On en a parlé de cela. Hein? Mais que la parole nous aide à être de ceux qui vont obéir. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses pour nous distraire. Et on s'éloigne de plus en plus de la parole de Dieu. Mais si on est dans la parole de Dieu et qu'on se représente concrètement, qu'on essaye de réaliser concrètement la réalité de cette parole de Dieu, que c'était des gens de la même nature que nous, que c'était le même Dieu qui est Dieu encore aujourd'hui, ben je peux vous dire que ça nous ramène réellement à Dieu. Comme j'ai pu le témoigner après que plusieurs aient partagé l'autre jour, moi je vois, en entendant même les uns et les autres, la grâce que j'ai eue, la chance que j'ai eue de pouvoir rencontrer Dieu seul à seul. Non pas que je veux être indépendant et ne dépendre de personne, c'est pas du tout cela que je veux dire, mais c'est d'avoir rencontré Dieu seul à seul qui m'ait mis en contact avec la parole de Dieu et que j'ai pu la lire avec la rencontre que j'avais fait avec Dieu, avec la puissance de son Saint-Esprit qui m'avait baptisé, qui m'avait été donné. J'ai pu lire la parole de Dieu telle qu'elle était. Et ça change tout. Mais quand on arrive dans une église qui ne tremble pas devant la parole de Dieu, alors on nous l'enseigne, on nous partage, et on a des concepts. On a des choses parfois même qui sont même pas bibliques, qu'on n'arrive plus, même pas à retrouver dans la Bible, puis on se dit, mais attends, que Dieu nous ramène directement à lui et à sa parole, à lui et à sa langue. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, comme nous l'avons lu dans le livre des Proverbes. Et nous avons besoin d'entendre parler la langue de Dieu, parce qu'il y a tellement de langues différentes dans ce monde, en nous et dans l'Église, que la langue de Dieu, on ne l'entend plus aujourd'hui, et on ne tremble plus devant la voix de Dieu. Lisez le psaume 29, la voix de Dieu, elle est terrible, au dernier jour, tout le monde l'entendra. Méditons ce psaume 29, cette voix qui fracasse les cèdres du Liban. Elle fend les rochers, il y a tout qui tremble devant la voix de Dieu. Il y a tout qui tremble. Je vais vous le lire. Il est rapidement lu, le psaume 29.
Est-ce que nous tremblons devant cette parole? On a besoin de trembler devant la parole de Dieu. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. C'est tout ce qui nous manque, ce psaume 29. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel comment? Avec des ornements sacrés. Soyez revêtus de Christ. Soyez revêtus de l'obéissance. Ne l'adorez pas mélangé avec un habit mélangé, mais revêtus d'ornements sacrés. On a perdu le sens du sacré aujourd'hui. Parce qu'on a perdu le sens de Dieu, de la sainteté de Dieu. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Et on va l'entendre, ce grondement de la voix de Dieu, quand il va revenir. Dans sa gloire, bien-aimé, dans sa gloire magnifique et majestueuse. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient « Gloire !» L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Lors du déluge, et nous vivons ces temps de Noé, bien-aimés. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Criez de joie les justes au Seigneur. Au cœur droit convient la louange, nous l'avions dit. L'Éternel y donne à tous sans reproche. Et simplement, mais à nous de trembler devant lui, à nous d'être résolus, parce que celui qui doute est semblable à quelqu'un qui est ballotté par les flots, qu'un tel homme ne s'imagine même pas recevoir quelque chose du Seigneur, nous dit Jacques. C'est un homme inconstant dans toutes ses voies, irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Est-ce qu'on va se résoudre dans nos voies et trouver la constance d'aller au bout, quelles que soient les circonstances? Ce qui nous y aidera, c'est de trembler devant la parole de Dieu et de nous dire que cette voix, elle vient bientôt et nous allons tous l'entendre. Et tout sera mis à nu devant nous. Alors puissions-nous nous résoudre pleinement à marcher avec lui et avoir ce cœur de David. Vous voyez, Saül a été rejeté. Qui sait que Dieu a loin derrière? David. Et c'est ce que Dieu a continué à dire à Samuel. Parce que Samuel, il pleurait même encore Saül. Et il lui a dit, va, parce que là, maintenant, tu vas vers j'ai choisi un des fils d'Isaïe. Parce que j'ai vu son cœur. Qui c'était? C'était le petit David qui était derrière ses troupeaux. Même Samuel, il s'est trompé sur tous les autres frères. Ah bon, c'est celui-là le dernier? Qu'il vienne, un berger. Et pourtant, lui, il dépossait les lions et les ours. Il avait une obéissance, un cœur pour l'Éternel, qui fait qu'il n'a pas tremblé devant Goliath. Vous savez pourquoi il n'a pas tremblé devant Goliath? Parce qu'il tremblait devant Dieu. C'est uniquement pour ça. Ne croyez pas que David, il est arrivé, « Oh, Goliath, mais il n'y a pas de problème, je vais lui prendre une ou deux pierres. » Bien sûr qu'il tremblait devant Goliath. Bien sûr qu'il avait peur de Goliath. Bien sûr qu'il était effrayé contre Goliath. C'était un homme de la même nature que nous. C'était impossible qu'il n'ait pas peur de cet immense Philistin. Il faut pas croire que c'était un surhomme, David. Mais il connaissait la voix de l'Éternel. Et quand il a entendu ce Philistin se moquer de l'Éternel, lui qui connaissait la voix de l'Éternel, lui qui adorait l'Éternel, alors là, il était totalement certain, par cette sainte violence du royaume, par ce zèle de l'Éternel, cette jalousie du Dieu d'Israël, que le Philistin, il avait beau faire 3 mètres ou même 100 mètres de plus haut, il était par terre. Et sa tête, elle finirait par être coupée. Il n'a même pas eu besoin de toute cette armée, cette armure de Saül. Parfois, on veut se mettre des choses. Non, cette armure, laissez-moi! J'ai besoin de l'Éternel et de l'Éternel seul, parce qu'il tremblait devant sa voix. Et si au moment d'affronter Goliath, il n'a pas tremblé, c'est parce qu'il tremblait devant la voix de Dieu et qu'il avait cette jalousie de Dieu, cet amour de Dieu. C'est un homme dépouillé. De la même manière, il chérissait ses brebis. Et si les lions venaient les attaquer, il était prêt à les défendre.
Il avait de l'amour dans le cœur. Et ce sera la conclusion de tout ce séminaire. L'obéissance et l'amour, bien-aimé. L'amour de Dieu dans notre cœur. Parce que l'amour de Dieu, dans notre cœur, il nous donne la haine du monde. Il nous donne la haine de la chair, la haine de l'iniquité. On a haï l'iniquité, comme on a lu tout à l'heure. Et il met cette droiture, et il met cette sainteté en nous. On lit alors, dans les actes des apôtres, bien-aimés, ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, si Dieu pouvait rendre ce témoignage de nous. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Et parce que c'est un homme selon le cœur de Dieu, un Dieu qui va jusqu'au bout, un Dieu qui nous a aimés jusqu'au bout, pourquoi on n'irait pas jusqu'au bout, nous, à sa suite? Parce qu'on ne tremble pas devant sa parole, parce qu'on n'est pas aussi assez en communion avec lui. Il a trouvé un homme selon son cœur. Et parce qu'il était selon le cœur de Dieu, alors nous lisons « Qui accomplira toute mes volontés ?» Un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés? Et vous savez, quand vous lisez le livre des rois, ou même le livre des chroniques, tous les rois après David, ils sont jugés par rapport à David. Tous par rapport à David. Quel cœur de David! Puissions-nous avoir ce même cœur? David, vous le savez bien, et on va même prendre un exemple tout à l'heure, il n'a pas toujours été parfait, mais il avait un cœur selon Dieu. Un cœur selon Dieu. Et puissions-nous avoir ce cœur selon Dieu, alors on accomplira toutes ses volontés. Voyez, je vous prends rapidement deux exemples. Salomon, un roi 11, verset 6, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. David son père, il a suivi pleinement l'Éternel. Et donc on lit après dans le livre des rois, ah non, Salomon, il n'a pas suivi pleinement comme David. Si on pouvait dire, ah, un tel, il a suivi pleinement l'Éternel, comme, je ne vais pas citer de nom, mais comme lui, comme elle. L'apôtre Paul, vous imaginez, il arrivait à dire, montrez-vous mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Mais qui c'est d'entre nous qui pourrait dire ça aujourd'hui? Puissions-nous être des hommes qui n'oseraient pas dire ça, mais qui puissent incarner ça? Dieu, il a besoin de ça, bien-aimés. Pour le corps de Christ et pour le monde. Qu'on soit pour le corps de Christ, des hommes et des femmes comme Christ, qui vivent pleinement la vocation de Christ, qui tremblent devant la parole, qui prouvent que ce monde va passer, qui montrent leur obéissance, non pas parce qu'ils disent, mais parce qu'ils sont. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Ensuite, il est dit aussi du roi Amatsia, 2 Rois 14, verset 3. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Oui, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père. Que Dieu fasse de nous ce peuple qui n'osera pas dire de la bouche « Montrez-vous mes imitateurs », mais qui pourra aider le corps de Christ à avancer et qui aidera, je n'avais pas terminé, le monde aussi à être interpellé. Le monde à être interpellé, de dire, mais attends, s'il vit ceci, s'il vit cela, c'est que Dieu est bien vivant. Que nous puissions être des Naomi, afin que ce monde puisse être une Ruth, bien-aimé. J'irai à Bethléem, Bethléem, la maison du pain, parce que je sais que ton Dieu est avec toi et ton Dieu sera mon Dieu. Il est mon Dieu, dira-t-elle. Jean, chapitre 8, verset 28. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. On le fait pleinement et on le fait toujours, jusqu'au bout. C'est ce que Dieu attend de nous. Alors, comme je vous l'avais annoncé, pour arriver à cela, nous sommes appelés à avoir une obéissance sainte, une obéissance kadosh. Ça veut dire une obéissance qui sépare, une obéissance qui coupe, une obéissance qui... qui veut rien savoir. Et peut-être que, comme nous commençons un petit peu à fatiguer, nous allons terminer avec ce point-là et lire ensemble le chapitre 15 du prophète Samuel. 1 Samuel, et nous lisons à partir du verset 1er du chapitre 15. Samuel dit à Saül, bon, on a lu le chapitre 13 tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors, l'histoire, elle continue. Il y a d'ailleurs son fils, parce que ça, bon, je ne peux pas aller dans les détails, mais lisez le chapitre 14 et voyez ce que fait Jonathan. Ils sont que deux. Ils sont que deux, ils avancent vers les Philistins. Et la terreur de l'Éternel s'empare du camp des Philistins. Pourquoi? Parce que Jonathan, le fils de Saül, ça aussi on ne se rend pas assez compte, mais c'est comme il y a plusieurs parents par ici, notre fils tout à coup, il se lève. Et cette armée des Philistins devant laquelle j'avais peur, qui ne m'a pas permis d'être obéissant jusqu'au bout, voilà que mon fils, il prend un gars avec lui, qui tient ses armes, et allez, on y va. Dans l'esprit de David, c'est pas pour rien qu'ils étaient si amis, David et Jonathan. Eh bien, il lui dit, allez, on y va. Et je me lis juste un passage, je ne peux pas me retenir. Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël, lui dit Jonathan. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivait. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine de personnes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. Alors, l'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Parce que les Philistins, ils venaient ravager les récoltes, en particulier du peuple d'Israël. Ils leur volaient leur bétail, ils les oppressaient. Et bien la terreur, elle s'est emparée du camp. L'effroi, verset 15, se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était quoi? C'était comme une terreur de Dieu. C'était comme une terreur de Dieu. Et vous pouvez lire, parce qu'on n'a pas le temps, au verset 20. Et voici les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres et la confusion était extrême. Vous voyez? Le Seigneur, il est descendu. Ils en ont tué 20. La terreur, elle s'est emparée. Et comme on le voit à plusieurs reprises dans les Écritures, ils se sont entretués. Ils n'ont même pas eu besoin de se battre. Ils se sont entretués les uns les autres, devant la terreur de Dieu. Comme quoi, quand on obéit, le Seigneur, il est là. Et on a un pas de foi à faire. Je voulais vous lire, on va continuer en introduction, comme ça, je vous l'aurais lu, parce que ça va avec ce que l'on partage. Ce n'est pas fait. Une méditation du tout pour qu'il règne. Seigneur, je te suivrai, mais... Voilà comment s'intitule le titre de cette méditation. « Seigneur, je te suivrai, mais supposons que Dieu vous demande de faire quelque chose qui est tout à fait contraire à votre bon sens. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Allez-vous reculer? Quand on a pris une habitude dans le domaine corporel, on recommence chaque fois jusqu'à ce qu'on ait brisé cette habitude par un effort de volonté. Il en est de même dans le domaine spirituel. » Ça va un petit peu avec ces deux points dont on a parlé, qui font qu'on sait après ce qu'est l'obéissance. On est en communion pleine avec Dieu. Vous serez chaque fois sur le point d'obéir à Jésus-Christ et chaque fois vous reculerez, jusqu'à ce que vous ayez pu abandonner par un acte de volonté votre volonté propre. Ce sera très 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 dur, comme je le disais, mais plus on va mettre en pratique, moins il y aura de traits. Et que librement, on renoncera à notre volonté pour faire strictement et saintement, nous sommes en train de voir ce point, la volonté de Dieu. Oui, dites-vous, mais si je fais cela, qu'en résultera-t-il? Oui, j'obéirai à Dieu, pourvu qu'il me laisse user de mon bon sens, mais ne me demandez pas de m'avancer dans l'obscurité. Comme je vous l'ai dit, c'est un homme qui connaissait Dieu, c'est un homme qui avait marché avec Dieu, sans quoi il n'aurait pas pu écrire ces choses. Jésus-Christ réclame de son disciple le même cran, le même esprit sportif que nous voyons chez l'homme ordinaire. Si un homme veut réussir dans n'importe quel domaine, il faut qu'il soit prêt, à certains moments, à tout risquer, à faire le saut. Si un homme veut réussir dans n'importe quel domaine, il faut qu'il soit prêt à un certain moment à tout risquer et à faire le saut. Jésus-Christ vous demande de risquer, au point de vue du bon sens, tout ce que vous avez et de faire ce saut périlleux. Si vous le faites, vous vous apercevez tout de suite, c'est merveilleux ça, si vous le faites ce saut, vous vous apercevez tout de suite que vous êtes désormais sur un terrain aussi solide que celui du bon sens. C'est tellement vrai quand on apprend à marcher avec Dieu. Ça nous paraît fou ce qu'il nous demande. Et on dit, attends, on essaye d'analyser, on essaye de comprendre, on essaye de peser le pour et le contre. Mais on ne tremble pas devant la voix de Dieu. On ne tremble pas devant l'appel de Dieu, devant le commandement de Dieu qui est pourtant notre vie, qui nous protège de nous perdre, de regretter des choses pour notre éternité entière. Mais aussitôt qu'on lâche le bon sens et qu'on obéit comme des enfants et qu'on marche avec Dieu tout à coup, mais c'est incroyable, mais c'est vrai. On se rend compte que là, on est sur un terrain mais qui est tellement plus solide que sur celui que l'on voulait croire être solide par notre analyse charnelle des choses. Combien parmi les missionnaires ici ont pu me le dire? Il y a une sœur qui vient de m'en témoigner ce matin ou hier soir. Avant de venir, il y avait tellement de combats, il y avait tellement de choses. On essayait de voir, j'essayais de voir avec un tel. Mais maintenant que je suis là, si je dois retourner là-bas, mais je suis tellement clair. C'est tellement devenu évident, après simplement 2 mois d'obéissance à Dieu, d'oser faire ce saut. Comme la plupart des missionnaires ici, la plupart des missionnaires, j'ai parlé, vous savez, de ces missionnaires qui sont partis en Afrique. J'ai oublié de vous dire que ces missionnaires qui habitent maintenant au pied de chez nous, c'est les missionnaires dont on a acheté la maison ici. Et on l'a acheté beaucoup moins que ce qu'elle valait, parce qu'ils avaient été résolus de partir en Afrique. Et vous savez à quel âge ils sont partis en Afrique? 64 ans pour la dame, 63 ans pardon pour la dame et 74 ans pour le monsieur. Il y a 8 ans de ça. À 74 ans, tu quittes tout pour partir en Afrique. Et maintenant, ils reviennent, il y a un institut biblique qui va commencer et il y a une œuvre missionnaire qui va se faire là-bas. Et c'est des gens qui vont venir même des États-Unis pour venir. Et un autre qui est de Côte d'Ivoire, alors que c'est un village perdu au Cameroun. C'est pour vous dire, quand on obéit, ce que Dieu peut faire. Et quand on n'obéit pas, ce que Dieu n'aurait pas pu faire. En jugeant par le bon sens, les affirmations de Jésus sont de la pure folie. Et c'est clair que si on veut interpréter le texte biblique selon ceci ou selon cela, bon ben on s'en sort. Mais sans notre bon sens de prendre la parole à la lettre telle qu'elle est, pour la vivre, ça paraît une pure folie. Pourtant, dès qu'on se met à la vivre, c'est comme si les Écritures, elles s'illuminent. Puis on se dit, mais c'est ça dont voulait parler Jésus. Mais oui, mais c'est évident. Mais c'est clair que c'est ça. Et tout à coup, la parole, comme je dis souvent, on la mange, ça devient vraiment une nourriture qui vient en nous. Puis c'est réel. Mais quelle joie de pouvoir vivre ça. Et c'est du solide, puis plus solide que jamais. Ce qui nous dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Alors quand on est en train de la vivre, on se dit, c'est sûr que là, je suis sur un rocher sûr et solide, n'est-ce pas? Alors, il dit, les affirmations de Jésus, par le bon sens, c'est de la pure folie. Mais, en jugeant par la foi, vous apercevrez avec un frémissement que ce sont les paroles mêmes de Dieu. C'est tellement beau. Vous apercevrez avec un frémissement que ce sont les paroles mêmes de Dieu. Tout à coup, on se rend compte, oui, c'est là la parole de Dieu, c'est Dieu. Et je suis dans ses voies et j'irai jusqu'au bout. Amen. Confiez-vous en Dieu et quand il vous le demandera, faites le saut. Dans les circonstances tragiques, nous devenons presque tous des païens. Bien peu d'entre nous ont le courage de faire à Dieu crédit. Il est extraordinaire cet Oswald Chambers. Dans les circonstances tragiques, la plupart d'entre nous, on devient des païens. Puis on n'ose pas faire crédit. Mais attends ceci. Vas-y. Vas-y. Alors, on en était où? J'étais en train de vous dire que voilà, si Saül, il a eu peur, son fils, lui, il n'a pas eu peur. Et Dieu, il a mis la terreur dans le camp des Philistins. Puissions-nous être de ces Jonathan. Alors, nous continuons et nous parlons de cette obéissance sainte. Et nous terminerons par cela. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé
pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute, on a bien parlé, écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Pour mieux comprendre ce texte, je vais le lire moi-même très vite, Deutéronome 25, verset 17. Déjà, du temps de Moïse, nous lisons « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, il lui donne un commandement là, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. » Et Samuel, en tant qu'authentique prophète de Dieu, il obéit à cela. Il lui dit, la mémoire d'Amalek, on doit l'effacer. C'est terminé. Amalek, c'est l'adversaire. Amalek, c'est cet esprit du diable. C'est cet esprit qui n'a aucune gêne, qui va derrière le peuple d'Israël et qui frappe et qui ne laisse pas le peuple de Dieu aller sa route. Comme le diable ne nous veut pas rentrer dans les desseins de Dieu. Et l'Amalek, l'adversaire, il faut l'éradiquer de nos vies. Comme j'avais pu dire à Pourim, si nous ne le mangeons pas, c'est lui qui nous mangera. Si on ne le met pas à terre, c'est lui qui nous mettra à terre. Et bien c'est malheureusement exactement ce qui s'est passé avec Saül. Vous savez quoi ? À Gag, on voit bien, c'était une guerre contre les Amalécites, les descendants d'Amalek. Eh bien, Agag, c'était le roi des Amalécites. Et il nous est dit que Aman, que nous pouvons lire dans le livre d'Esther, était un descendant d'Agag. C'est pour vous dire, quand on n'éradique pas le diable, il viendra toujours pour discuter avec nous, comme on a pu le voir avec ce serpent, avec Ève. S'il y a un moment où nous n'exerçons pas la sainteté de Dieu, nous continuerons à être doubles. Nous continuerons à être dans des combats, comme nous en avons parlé, dans lesquels Dieu ne nous veut pas être. Alors il y a un moment où il faut couper. Et la tradition juive nous dit qu'entre ce temps où Saül n'a pas détruit et dévoué par interdit Agag, ça veut dire l'avoir tué, et le temps où Samuel, nous allons le lire, l'a découpé en morceaux par la sainteté de Dieu, eh bien Agag aurait eu le temps de faire un enfant. Et ça, c'est la descendance qui arrive jusqu'à Aman, celui qui a voulu exterminer le peuple juif lorsqu'il était dans le royaume de Perse. Alors, vous voyez l'importance, bien-aimés, d'être saint, d'obéir saintement et de couper quand Dieu nous demande de couper. Ainsi parle l'Éternel des armées. Nous l'avons lu, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Verset 4. Saül convoqua le peuple et en fit la revue. Je passe un peu plus rapidement, d'accord ? Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Alors il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant, donc il désobéit, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple, en le passant au fil de l'épée. Mais, j'obéirai, mais, un petit peu de compromis, un peu de levain, ça fait lever toute la pâte. À Pessah, c'est ça, on enlève tout le levain des maisons. De génération en génération, on a fait ça. Vous savez, le nettoyage de printemps, ça vient de Pessah, c'est vrai.
Ça vient de Pâques, parce que Pâques tombe au printemps. Je le dis sans rigoler, ça vient de là. Le nettoyage du printemps, où on nettoie toute la maison et on sort tout le levain pour la fête des pains sans levain. Ça nous enseigne qu'une fois sortis de l'Égypte, nous sommes dans cette fête des pains sans levain, et comme le dira l'apôtre Paul, pour fêter cette fête purifiée de tout vieux levain. La fête de Pâques, la fête des pains sans levain, c'est la fête qui nous rappelle la sortie d'Égypte, mais aussi la sanctification, qu'on est purifié de tout vieux levain. Parce qu'on sait que si c'est le cas pour le royaume, c'est le cas aussi pour le diable. Un peu de levain du royaume, vous vous souvenez ? Un peu d'obéissance, ça prend corps. Et le royaume de Dieu qui est au-dedans de nous va monter. Et tout ce qui était cette nature déchue, diabolisée, mondaine, eh bien, elle ne devient plus rien. Eh bien, c'est là, c'est le même phénomène. Le phénomène inverse, il est exactement le même. Et on en parlera peut-être, si l'on parle des conséquences de la désobéissance, on verra ou pas. Mais retenez bien une chose. Pour que le royaume des cieux grandisse, si nous sommes sauvés par notre seule foi en Jésus-Christ et qu'en un instant, il y a cette vie qui vient en nous, pour former le Messie en nous, c'est un cheminement d'obéissance. Et ça met du temps. Mais si ça met du temps pour en arriver là, bien-aimé, ça peut aller très vite de se retrouver en bas. Et c'est ce que cette histoire de Saül veut nous dire. Pour gagner du terrain au diable, par notre obéissance, pour entrer dans la vocation qui est la nôtre, eh bien, on y rentre par des souffrances, par de l'obéissance qui coûte, c'est évident, c'est évident. Mais le diable, pour rentrer à nouveau et pour nous faire chuter, il peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Et après, si on met du temps pour être réellement libre et affranchi et préparé pour être utilisé par Dieu et que ça ne se fait pas comme ça en quelques mois, eh bien, lorsque le diable nous fait chuter, eh bien, pour regagner le terrain qui nous a été conquis, eh bien, c'est tout un cheminement. Et Dieu voulant, on pourra en reparler un petit peu. Au travers du roi David qui lui a chuté aussi, et au travers des divers rois d'Israël qui nous montrent qu'une fois qu'on a chuté, eh bien, pour retrouver cette liberté, ce terrain acquis que l'on avait, eh bien, c'est difficile. Regardez l'histoire du peuple d'Israël. Ils sont rentrés sous Josué. Après David, le royaume s'est étendu. Regardez après David ce qui s'est passé. Le royaume du Nord, après, il y a eu une division. Le royaume du Nord, il est parti dispersé par les Assyriens. Le royaume du Sud, c'est les Babyloniens qui sont venus. Après, ils sont revenus sous Esdras et Néhémie. Mais ça a été drôlement dur. Et puis, ils n'avaient pas de roi. Hein, ils n'avaient pas de roi. C'est pour ça qu'ils voulaient faire de Jésus un roi. Parce qu'ils étaient sous domination romaine, n'est-ce pas ? Et puis ensuite, on sait ce qui s'est passé. Ils ont de nouveau été dispersés. Et regardez, regardez par quelle souffrance ils sont passés pour revenir en Israël. Et la Shoah, ça en fait partie. Et tous les pionniers qui sont venus pour assainir les marécages. On allait en Israël pour y mourir avant d'aller pour y vivre. Il y a dû y avoir des pionniers, des hommes et des femmes faits, prêts à verser leur sang pour leur patrie, bien-aimés. Mais derrière cet appel à retourner à Sion, il y avait Dieu qui était derrière. Alors quand on sait que des gens ont versé leur sang, morts de la malaria, quand on peut contempler l'histoire d'Israël, et toutes les souffrances, les persécutions qu'ils ont pu avoir jusqu'à revenir en terre promise, vous voyez un petit peu le prix qui a été payé. Comme je vous l'ai dit, quand on regarde Israël, on se regarde soi-même. Ça doit nous donner un feu aussi. Mais voyez maintenant, une seule bombe atomique, avec tout ce qu'ils ont reconstruit, avec tout ce qu'ils ont fait, schlac, en un instant, il y a tout qui peut tomber. Et vous savez quoi, dans le peuple d'Israël, il y a une âme qui nous manque tellement. C'est que ça arriverait que le lendemain, ils auraient l'appel et ils seraient repartis. Puissions-nous être de ces hommes et de ces femmes-là. Mais retenez, si ça prend du temps à gagner du terrain, ça peut aller très vite à le perdre. Et ensuite, c'est d'autant plus dur à le retrouver. Parce que comme nous allons le lire, eh bien, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins. Et quand on fait de la divination, on n'en sort pas comme ça non plus. N'est-ce pas ? Eh bien, quand on désobéit, on n'en sort pas comme ça non plus. Alors, puissions-nous obéir de manière sainte ? Alors, Nous allons terminer notre lecture. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Parfois c'est la vérité, on veut bien se séparer de certaines choses, mais d'autres, non. Des choses, on ne perd pas grand-chose, on veut bien s'en séparer, mais ce que Dieu veut, c'est notre Isaac, bien-aimé. Ce que Dieu veut, c'est notre Isaac. Et notre Isaac, c'est nous-mêmes. C'est tout ce que l'on a, tout ce que l'on voudrait garder. C'est là où Dieu met le point. Parce qu'il veut nous libérer totalement. Parce qu'il veut nous libérer totalement, qu'on soit pleinement malléable dans sa main. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » C'est terrible. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, « Saül est allé à Carmel. » Bon, je passe, Saül il a avancé. Et ensuite, verset 13, « Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. » J'ai observé la parole de l'Éternel. Vous voyez, des fois, on est inconscient qu'on est faux et qu'on se détourne ainsi. J'ai observé. Écoutez ce qu'il lui dit, Samuel. Et ça, que ça puisse être comme une parole prophétique pour nous aussi. Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» C'est exactement ce que je disais lors de ces témoignages qu'on a eus. On dit, « Voilà, je veux vivre, je suis là, j'obéis à ta parole. » Et le Seigneur, il pourrait nous faire passer tous ces gémissements, bien-aimés, ces bêlements de brebis qui parviennent à ses oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends. Toutes ces réticences, toutes ces fois où on n'obéit pas. Le Seigneur, il pourrait nous dire, et tout ça que j'entends, tu le veux vraiment? Alors pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Vous voyez, c'est exactement comme Adam et Ève, hein. C'est pas moi, c'est la femme. Hein. Là, c'est pas moi, je suis le roi, c'est moi qui règne par une parole de fer, mais là, c'est pas moi, c'est eux qui les ont amenés. Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Voyez, on arrivera toujours à s'en sortir, et même dire que c'est pour Dieu. Non, Dieu, arrête avec ton bon sens. Tu lui obéis, tu rentres, il va te former, tu vas rentrer dans ses voies, et c'est sa voie à lui, c'est pas notre manière d'adorer Dieu. C'est tout cela qu'on voit dans la parole de Dieu. Je vous l'ai dit très vite, là, avec ce royaume du sud et ce royaume du nord, Jéroboam, ben, il a fait son adoration. Il a changé les jours. Il s'est créé des sacrificateurs. Non, non, non. Dieu, il a une manière de faire. C'est lui le roi. C'est lui le maître. Et c'est là qu'on trouve notre vie. C'est là qu'on trouve notre bonheur. C'est là, si j'ose dire, que Dieu, à travers nous, fait mouche, comme il doit faire mouche. Mais à vouloir nous croire pour des sauveurs, on n'en sera pas. Il ne le sera pas en nous. Alors écoutez ce qu'il lui dit Samuel. Samuel dit à Saül, arrête, arrête. Et ça, j'ai pu en parler, je le redis. On a besoin de ces moments où tout à coup, il y a tout qui s'arrête. C'est ça le sens du Shabbat. Arrête, sinon tu vas mourir. Si tu continues à faire du feu, tu vas mourir. Arrête. Arrête-toi, Samuel lui dit, arrête. Malheureusement, c'était trop tard pour Saül. Mais nous vivons de la grâce de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on la prend en vain. Et on a besoin de ces moments où on s'arrête, où tout s'arrête. Et on laisse Dieu nous montrer qui nous sommes. Quel est le sens de notre vie. C'est plus moi qui me dis, même en Christ, mais tout à coup je m'arrête et Dieu me montre. Et c'est là où alors les résolutions peuvent se prendre pour aller au bout. Maintenant, pour Saül, c'est effectivement trop tard. Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, écoutez, ça va avec tout ce qu'on a pu dire. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Je ne reviens pas, on en a parlé, qu'on doit être des tout petits débrisés. C'est là qu'on a l'onction quand on est tout petit débrisé. C'est là que Jésus nous donne son autorité. Quand tu étais petit, tu n'as pas vu ce que Dieu a fait avec toi? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, le péché, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. On va faire la guerre, amen, jusqu'à quand nous soit exterminé tout ce qui vient d'Amalek, pour qu'alors, une fois que la guerre sera gagnée en nous, nous puissions aller la gagner à l'extérieur. Alléluia!
Amen.
Alléluia !
Alléluia !
Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ? Alors Saül, il répond. Et on trouvera toujours à répondre. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Vous voyez, c'est terrible. On se justifie. On établit notre propre justice parce qu'on ne tremble pas devant la voix de Dieu. Alors il dit, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je ne m'arrêterai pas sur ces paroles que nous connaissons tous si bien, mais puissions-nous percevoir avec les quelques mots que l'on a dit dans quel contexte elles se trouvent, de quel Dieu nous parlons quand nous disons cela. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Si tu le renies, il te reniera, nous dit Paul à Timothée. Alors, et bien-aimés, nous arrivons au bout. C'est alors, c'est maintenant qu'il faut l'avoir. C'est maintenant qu'il faut avoir cet alors. Parce que lui, au moment où il est condamné, c'est là qu'il y a alors. Et tout à coup, il y a une sorte de vraie repentance qui vient en lui. Et mon plus gros souci pour moi-même, pour ma femme, pour mes enfants et pour le peuple de Dieu, c'est que cet alors, il vienne trop tard. Comme Ésaü, son alors, il est venu trop tard. Il avait beau vouloir implorer avec des larmes cette bénédiction, il avait méprisé son droit d'aînesse. Si on méprise Dieu aujourd'hui, si on méprise sa sainteté, sa seigneurie, et donc le fait de lui obéir de cœur, eh bien, lorsqu'il reviendra, et qu'on sera face à sa voix majestueuse, nous dirons alors. Et ça, Jésus, il nous en prend plein d'exemples. Mais on n'a pas mangé avec toi, on n'a pas fait ceci. On voit que les gens, ils ne comprennent pas. C'est évident, non ? Dans ces paroles nombreuses, avec les vierges sages, les vierges folles, les serviteurs, Jésus nous a donné maintes exemples de personnes qui ne comprennent pas. Alors, il arrive trop tard. Si notre alors vient maintenant, si notre alors vient aujourd'hui, nous rentrerons dans les desseins de Dieu et nous serons une génération sainte. Parce que face au monde dans lequel on vit, c'est que ce que Dieu fera. Mais tout l'enjeu, c'est que notre alors, et notre alors sans compromis, et plein, et immédiat, et jusqu'au bout, ce soit maintenant. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et vous savez, il faut se lancer. Il faut se lancer, parce que même si après, ça peut mettre du temps à gagner du terrain, l'important, c'est de passer cette porte étroite, c'est de commencer par ce chemin resserré. Après, comme j'ai pu dire, il va s'élargir. Il y a un moment donné, il faut y aller. Et d'y aller, c'est finalement pas aussi difficile que ce que l'on croit. Il faut simplement faire le saut de crucifier justement toutes ces voix, tous ces bêlements, tous ces mugissements. Et on en a en nous, c'est pas la vérité. On en a en nous. Et à un moment donné, quand on y va, et c'est ce qu'un frère témoignait, de dire, moi j'ai été 7 ans, c'est clair que je me rends compte que je peux pas dire que j'étais chrétien. Il l'a dit ouvertement, clairement, ça a pu peut-être remuer certains, ça a pu toucher d'autres qui ont dit amen, c'est vrai. Mes fondations, elles étaient pas bonnes, elles étaient retournées, c'est ce que disait notre frère maçon. Mais je me suis déterminé, et tout a changé pour moi. Et ça fait 2 mois. Donc c'est dire que Dieu agit, et parfois plus vite même que ce que l'on croirait, mais de faire ce pas, c'est pas si compliqué que ça. Vous savez, quelqu'un disait un jour, le diable, c'est comme, et c'est pas par irrespect pour les gloires, hein, comme le dit l'épître de Jude, mais il disait, le diable, c'est comme un chien. Il aboie, il fait très peur. Il racontait cette histoire que quand il était petit, il devait revenir, et puis il y avait un chien qui aboyait,
Et puis ce chien, il lui filait une trouille énorme. Et finalement, il se rendait compte que plus il grandissait, que ce chien, en fait, il en avait tellement peur. Déjà, il n'était même pas si méchant que ça. Et puis que s'il fallait un bon coup dans le museau, puis c'était fini. Et je pense que parfois, le diable, il a cette habilité à nous grossir les choses, à nous empêcher, à nous faire paraître un impossible qui est pourtant possible. Et parfois, le diable, on le voit trop grand. Et Dieu, on le voit trop petit. Puissions-nous voir Dieu grand et trembler devant la parole de Dieu, et non pas l'inverse. Parce que ces voix, elles nous viennent de celui qui a été vaincu. Et si nous prenons là, le step, ça veut dire une première marche, eh bien vous verrez qu'on peut marcher sur ces scorpions. On peut marcher aussi sur ces serpents. Et on peut en tout cas être dans cette position d'enfant de Dieu, d'authentique chrétien, plus rapidement que ce que l'on croit. Mais toutes ces voix en nous qui agissent, comme on a pu le dire, la chair, c'est la fiancée du diable, ça grossit tout. Mais il faut y aller. Et on peut avoir la victoire parfois plus vite que ce que l'on croit. Alors, Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté ta voix. » Vous voyez, tout à coup, là, il est dans la vérité. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Alors Samuel se tournait pour s'en aller. Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Terribles ces paroles, mais puissent-elles être dans notre cœur? Celui qui est la force d'Israël, l'Éternel, celui qui est la force d'Israël, ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour changer, pour dire des choses qu'il ne fait pas. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait certainement, « L'amertume de la mort est passée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère, entre les femmes, sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel. Éternel, Dieu de gloire, donne-nous de mettre l'ennemi en pièces et de suivre c'est Samuel, de suivre c'est David, de trembler devant ce qui nous donnera la force qui est en toi, le Saint d'Israël, d'être des personnes qui obéiront jusqu'au bout, sans trembler, sans douter, en allant jusqu'à la fin. Vous persévérerez jusqu'à la fin. Alors, non seulement nous serons sauvés, mais tu pourras accomplir tes œuvres en nous. Fais ces choses, Éternel. Permet que tout ce qui a pu être partagé reste gravé dans nos cœurs. Le plus profond de ma prière, fais-nous trembler devant ta parole. Et si nous tremblerons devant ta parole, nous t'obéirons immédiatement et nous t'obéirons jusqu'au bout. Cela est sûr, parce que tu es ce Saint d'Israël et tu n'es pas un homme pour changer. Tu n'es pas un homme pour te repentir. Alors aide-nous à avoir ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aide-nous, Père Céleste, dans ces temps difficiles. Bénis-nous et nous serons bénis parce que nous t'aurons entendu et nous aurons mis notre salut en œuvre pour pouvoir être de ceux qui se savent être dans ta main qui est précieuse, soumis à toi, sous ta main puissante. Que ta main puissante vienne nous bénir en ces instants, ô Dieu de gloire, en vérité, pour que nous mettions en pratique et jusqu'au bout cette obéissance qui est notre gloire, qui est notre joie, qui est notre huile et qui est tout à ton honneur, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur et Maître. Amen.